je préfacerai notre travail ensemble par une exhortation prise du chapitre que nous allons plus particulièrement considérer, le chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens. Soyez des petits-enfants, des bébés, des enfants sont inaptes quant au mal, mais quant au jugement, quant à la jugeote, soyez des adultes. C'est comme ça qu'on pourrait traduire l'un des versets d'un Corinthiens 14, qui est le passage le plus développé sans doute de toute la Bible sur le parler en langue. Il m'a semblé opportun de traiter ce sujet ce matin. Je n'ai pas eu de votre part de demande précise quant à de nouveaux sujets à traiter, et donc ma pensée s'est portée de ce côté. Cela pourrait constituer la première étude d'une série sur les dons spirituels, mais je n'ai pas vraiment décidé d'une manière irrévocable. Après l'expérience de ce matin, si vous souhaitez que nous continuions avec d'autres dons spirituels, nous pourrons le faire, Dieu voulant, mais je suis aussi ouvert à d'autres possibilités, si vous avez vous-même d'autres idées qui vous tiennent à cœur. Le sujet n'est pas un sujet très chaud en ce moment, au contraire d'autres moments de l'histoire de notre Église et de l'histoire du christianisme évangélique, mais il m'a semblé cependant utile de faire le point. La création du CNEF, du Conseil national des évangéliques en France, représente d'abord une reconnaissance mutuelle, fraternelle et un grand pas en avant dans la collaboration entre les pentecôtistes et les non-pentecôtistes parmi les évangéliques. C'est une chose que je crois conduite du Seigneur, très très heureuse, et j'y participe dans la mesure de mes possibilités et des occasions. Il ne faudrait pas cependant que cette collaboration conduise à laisser les points de différence, qui sont d'ordre second, mais qui ne sont pas insignifiants, dans une espèce de brouillard euphorique, de telle sorte que plus personne ne sache exactement ce qu'il convient de penser sur des sujets que l'Écriture elle-même aborde. Alors la question du parler en langue est une question de différence entre les thèses, les plus courantes en tout cas, parmi nos frères et sœurs pentecôtistes et parmi les autres évangéliques qui ne sont pas donc de cette étiquette. Alors, sous le nom de pentecôtistes, on parle des pentecôtistes des assemblées de Dieu, mais aussi d'autres dénominations, d'autres mouvements, en particulier les néo-pentecôtistes ou charismatiques, comme on les appelle. Et la diversité est très très considérable parmi eux. Même sur le sujet du parler en langue, je vais en dire un mot. Je compte aussi que notre étude se situe dans le prolongement de notre étude de textes difficiles. Et je vais donc insister sur l'interprétation d'1 Corinthiens 14, ce texte clé en la matière, que nous pourrions aussi d'ailleurs reprendre ultérieurement à propos du don de prophétie, qui me semble aussi un sujet qui pourrait mériter de notre part une étude. Alors nous allons lire ce chapitre 14, je vais le lire dans la version de la Nouvelle Bible Seconde d'abord, mais ensuite j'y reviendrai avec des remarques sur le sens littéral ici ou là, comme vous savez que je fais souvent. Alors je lis le chapitre 14 de la première aux Corinthiens, et puis ensuite, donc, je vous ferai un petit exposé. Le sujet du parler en langue est déjà abordé au chapitre 12 et 13, mais très brièvement. Au chapitre 12, l'apôtre souligne la diversité des dons, qui sont tous complémentaires dans le fonctionnement harmonieux du corps du Christ, et il parle du parler en langue, à l'un de donner le parler en langue, à l'autre ceci, cela, et y compris d'ailleurs un don d'interprétation, de ce qui est dit en langue. Et il pose aussi la question à la fin du chapitre. Tous parlent-ils en langue ? Non. Et au chapitre 13, il souligne que aucun des dons n'a de prix s'il manque l'amour. Et il commence par le parler en langue en disant que il pourrait parler toutes les langues, cela ne vaut rien, il ne serait qu'une casserole qui fait du bruit s'il n'a pas l'amour. Et puis au chapitre 14, donc, il continue, poursuivez l'amour, aspirez aussi aux pratiques spirituelles, c'est comme ça que traduit la NBS, mais aux dons spirituels pourrait être aussi une autre traduction, surtout à celle qui consiste à parler en prophète, prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en prophète, au contraire, parle aux humains, il construit, il encourage, il réconforte. Celui qui parle en langue se construit lui-même, celui qui parle en prophète construit l'Église. Je veux bien que vous parliez tous en langue, mais je préfère encore que vous parliez en prophète. Celui qui parle en prophète est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que cela contribue à la construction de l'Église. Et maintenant, mes frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Si des objets inanimés qui produisent un son comme la flûte ou la lyre ne produisent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce que joue la flûte ou la lyre? Et si la trompette produit un son incertain, qui se préparera au combat? De même, vous aussi, si par la langue vous ne produisez pas une parole significative, comment saura-t-on ce qui est dit? Vous parlerez en l'air. Si nombreux que soient les divers langages du monde, aucun n'est pourvu de sens. Mais si je ne connais pas le sens d'un langage, je serai un barbare pour celui qui le parle, et celui qui le parle sera un barbare pour moi. De même, vous aussi, puisque vous aspirez aux manifestations de l'Esprit, cherchez à y exceller, mais pour la construction de l'Église. Que celui qui parle en langue prie donc pour qu'il lui soit donné d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire alors? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi de façon intelligible. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi de façon intelligible. En effet, si c'est par l'esprit seulement que tu prononces la bénédiction, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Toi, certes, tu prononces de belles actions de grâce, mais cela n'est pas constructif pour l'autre. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence pour instruire les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Mes frères, ne soyez pas des enfants pour ce qui est du jugement. Pour ce qui est du mal, soyez des enfants, mais pour ce qui est du jugement, soyez des adultes. Il est écrit dans la loi, c'est par des gens d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et même ainsi ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. Le message de prophète, au contraire, est un signe, non pas pour les non-croyants, mais pour les croyants. Admettons que l'Église entière se rassemble et que tous parlent en langue. S'il survient de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous parlent en prophète et qu'il survienne un non-croyant ou un simple auditeur, il est confondu par tous, il est jugé par tous, le secret de son cœur devient manifeste, alors tombant face contre terre, il adorera Dieu en déclarant « Dieu est réellement parmi vous ». Que faire alors, mes frères? Lorsque vous vous réunissez, chacun ayant un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout soit constructif. Si l'on parle en langue, deux ou trois fois tout au plus, et à la suite, qu'il y ait aussi quelqu'un qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, on se taise dans l'Église, qu'on parle pour soi-même et pour Dieu. Quant au prophète, que deux ou trois parlent et que les autres jugent, si un autre assistant à une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez parler tous en prophète, un par un, pour que tous soient instruits et encouragés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est choquant qu'une femme parle dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou bien est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un se considère comme un prophète ou un être spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est, dans ce que je vous écris, un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ne le reconnaît pas, c'est qu'il n'est pas reconnu. Ainsi donc, mes frères, aspirez à parler en prophète sans empêcher qu'on parle en langue, mais que tout se fasse convenablement et dans l'ordre. Voilà ce chapitre qui est assez long, très pratique, qui contient plusieurs difficultés. Alors je ne traiterai pas de toutes, celles qui concernent la parole des femmes. Nous avons eu l'occasion d'en parler à d'autres occasions, d'autres reprises, et si vous voulez, nous pourrions même y revenir une autre fois, mais je pense qu'il ne serait pas sage d'ajouter ce point à notre programme aujourd'hui. Alors je le laisserai de côté. Mais nous allons nous concentrer sur ce qu'on appelle parler en langue. Il y a deux autres expressions dont je dois dire un mot avant de continuer. Parler en langue, cela se désigne aussi par le terme de glossolalie. En fait, ça veut dire exactement la même chose. Glosso vient de glossé, qui est la langue en grec, et lali vient du verbe parler en grec, qui est employé dans l'expression grecque. Donc, glossolalie, c'est glossolalein, le verbe, ça veut dire parler en langue. Rien d'autre, hein, ça n'implique aucun sens différent. Mais c'est simplement un mot français qu'on a forgé immédiatement à partir des mots grecs pour dire la même chose, parler en langue. Mais il y a des gens qui emploient aussi le mot de xénoglossie, qui n'est pas dans la Bible, mais qui emploient aussi ce terme. Et voici la différence qu'ils font entre glossolalie et xénoglossie. C'est un point que nous allons reprendre en discussion dans la première partie de l'exposé. Dans un instant, ils disent la xénoglossie, c'est le fait de parler dans des langues étrangères. Xéno, vous connaissez le mot xénophobe, hein? Xénophobe, c'est celui qui n'aime pas les étrangers. La xénoglossie, c'est le parler en langues étrangères. Et ils distinguent le parler en langues étrangères de la glossolalie, qu'ils considèrent comme un phénomène qui n'a que l'apparence d'un phénomène linguistique. Ce n'est pas un véritable langage, une véritable langue que parlent les glossolales. On en parle moule glossolale pour ceux qui parlent en langue. C'est une suite de sons qui ressemblent un peu à l'oreille, à une expression dans une langue autre, mais qui n'en est pas réellement. Le phénomène, un tel phénomène de glossolalie sans langue véritable, il a été observé de manière tout à fait certaine, même simplement par des psychologues. Il semble qu'il existe une fonction qui peut se déclencher très facilement, même chez des enfants, qui correspond à la description que je viens de vous donner. Et on l'a observé, par exemple, chez des mormons, dans le vaudou. C'est quelque chose qui n'est pas si rare dans la diversité des expressions religieuses du monde. Alors, ceux qui font la différence disent qu'acte 2, le récit de la Pentecôte, prétend nous présenter un cas de xénoglossie, d'expression en langues étrangères. Mais ce n'est pas le cas partout, et ceux qui en général font cette distinction, j'y reviendrai, pense que dans la première Corinthiens, il ne s'agit pas de xénoglossie, mais simplement de ce phénomène glossolalique qu'on trouve dans de nombreux endroits dans le monde, en dehors du christianisme même. Vous voyez. Alors je vais tout Calvin contestait cette distinction, en ce qui concerne en tout cas le parler en langue biblique. Mais il est bon que vous connaissiez déjà ces termes. Il n'y a pas tellement de passages dans le Nouveau Testament qui nous parlent de parler en langue. Il y a les trois chapitres de la première épître aux Corinthiens que je viens de citer, mais en dehors de cela, il n'y a que trois passages dans le livre des Actes et ce qu'on appelle la finale de l'évangile de Marc, une conclusion de l'évangile de Marc qui semble ne pas avoir appartenu à la première rédaction de l'évangile de Marc, parce qu'il est absent des plus anciens manuscrits et des manuscrits considérés comme les plus fiables, mais qu'il est quand même, je pense, au moins prudent de considérer comme un résumé inspiré d'une fin de Marc qui a dû périr, peut-être par dégâts matériels causés au premier manuscrit de l'Évangile. Cette finale de l'Évangile de Marc, elle n'est pas reçue comme la parole de Dieu canonique par certains évangéliques, mais la plupart la reçoivent comme telle. Semble avoir été reconnue, et moi je la reçois comme telle. Donc je la prends au sérieux aussi comme un enseignement revêtu de l'autorité du Seigneur. Alors, dans cette finale de Marc, il est dit que ceux qui croiront au Seigneur et qui diffuseront son message auront le privilège d'un accompagnement par des signes divers, des signes de type miraculeux divers. Alors, il n'est pas dit que chacun aura tous ces signes dans sa vie, ou même chaque église aura tous ces signes, mais il est question d'un certain nombre de phénomènes de type miraculeux, et parmi eux, ils parleront de nouvelles langues. C'est le mot nouvelle qui est employé. Ils parleront de nouvelles langues dans Marc 16, donc Marc 16, verset 17. Dans le livre des Actes, il y a donc le récit de la Pentecôte, au moment où l'événement s'est produit, vous le savez, il y a eu un vent impétueux qui a rompu toute la maison, comme un ouragan. Il y a eu des langues de feu comme des formes d'éclairs, mais langues de feu durables, ça ne durait pas juste une fraction de seconde, qui se sont posées sur ceux qui étaient là, les apôtres et les 120 disciples qui attendaient la venue du Saint-Esprit, que comme Jésus montant au ciel leur avait dit de le faire, et ils se sont exprimés dans diverses langues, nous est-il dit ce jour-là, et comme il y avait alentour une foule de gens qui parlaient la multitude des langues du bassin méditerranéen, des juifs et des prosélytes devenus juifs, donc qui venaient de tous les pays avoisinants, ils ont reconnu dans les paroles que les 120 émettaient, des louanges de Dieu dites dans leur propre langue. Alors que les 120 ne connaissaient pas ces langues du tout. Ils ne savaient même pas ce qu'ils disaient. C'était l'Esprit qui leur donnait ainsi de s'exprimer. Et puis, il nous est raconté au chapitre 10 que l'Esprit est descendu quand ils ont accueilli le message prêché par l'apôtre Pierre sur le centurion Corneille et sur ses amis qui étaient réunis, qui avaient fait venir Pierre selon l'instruction de Dieu lui-même, et ils se sont mis à parler en langue. Et encore au chapitre 19, il nous est raconté qu'il y a un groupe dans la région d'Éphèse de gens qui s'étaient plus ou moins mêlés aux premiers chrétiens dans la région, mais à qui Paul, pour éclaircir les choses, a demandé « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ?» Quand vous avez cru, apparemment c'était pour lui normal, et ils ont dit « Mais nous sommes des disciples de Jean-Baptiste, nous ne savons même pas que le Saint-Esprit a été répondu. » Et Paul leur a expliqué alors tout ce qu'ils devaient savoir, ayant accueilli le message de Jean-Baptiste, et il les a aussi baptisés d'eau à cette occasion, mais à ce moment-là, l'Esprit est descendu sur eux, et ils ont parlé en langue. En dehors de ces passages que je viens de citer, il n'y a aucune référence au parler en langue, nulle part, dans le Nouveau Testament ni dans l'Ancien. Et je signale encore que certains ont cru pouvoir le parler en langue dans un verset, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 26, où il nous est dit que nous ne savons pas prier comme il faut, mais que l'Esprit vient à notre secours, et qu'il surintercède, alors par des soupirs ou des gémissements, on peut traduire de deux façons, alors beaucoup de traductions mettent inexprimable. Et certains ont dit, ça c'est parler en langue. Alors, je crois que c'est vraiment une opinion insoutenable. D'abord, il n'est jamais dit, nulle part, que le parler en langue soit fait de soupirs ou gémissements. Il n'y a aucune association dans aucun passage qui parle clairement du parler en langue avec le thème des gémissements et des soupirs. Et puis, deuxièmement, il est dit que ces soupirs sont non parlés, ce qui est traduit inexprimable, c'est littéralement non parlé à partir de ce même verbe lalein. A lalaitos. Vous avez le A privatif qui correspond à non. Ils sont non parlés. Alors je trouve que c'est un comble d'interpréter du parler des gémissements qui sont dits non parlés par l'apôtre. Donc je vous dis simplement que je ne considère pas ce verset comme une référence. Et donc je vous ai donné toutes les autres références. Alors je pose trois questions. Essentiellement, à propos du parler en langue. Quoi, pourquoi et comment? Quoi, la nature de ce don, son sens et la juste manière de pratiquer? Donc, quoi, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, pourquoi le sens et finalement, comment? Pratiquer. Quoi ? La conception classique du parler en langue, qui est aussi celle du pentecôtisme au moins traditionnel et originel, car vous savez que le pentecôtisme a maintenant un peu plus d'un siècle. Il est né au tout début du XXe siècle aux États-Unis. C'est que le parler en langue consiste à émettre des paroles sous l'impulsion miraculeuse du Saint-Esprit dans une langue qu'on ne connaît pas soi-même. Elle est nouvelle, l'adjectif utilisé dans Marc 16, elle est nouvelle dans ce sens, elle est nouvelle pour la personne parce qu'il ne la connaît pas. En général, c'est une langue terrestre qui existe ou qui a existé, parce qu'il peut s'agir aussi d'une langue pratiquement disparu aujourd'hui, parmi les milliers et les milliers de dialectes que l'humanité a pratiqués. Comme je l'ai déjà suggéré il y a quelques instants, une opinion différente a fait pas mal d'adeptes, et ces adeptes font leur choix à partir d'arrière-plans très très différents. Pour eux, donc, la glossolalie courante n'est pas xénoglossie. La glossolalie courante est une simple émission de sons successifs qui n'ont pas en eux-mêmes un caractère linguistique. Alors pour beaucoup de libéraux, les protestants et les catholiques, d'ailleurs aussi modernistes, pour beaucoup de libéraux, en fait, dans le Nouveau Testament, il n'y avait que de la glossolalie dans leur sens, c'est-à-dire des émissions de syllabes, de sonorités successives, et aussi même à la Pentecôte. S'il y a eu quelque chose à la Pentecôte, rien d'autre. Mais ça a été mal compris. On s'est imaginé qu'il s'agissait de véritables langues produites miraculeusement, et le récit de la Pentecôte a été arrangé pour ça. Mais en fait, ce n'est que de la glossolalie, ce n'est pas de la xénoglossie qui impliquerait nécessairement une intervention surnaturelle. Le scepticisme face au miracle, le refus d'y croire, joue un grand rôle dans cette interprétation. Mais il y a quand même aussi des évangéliques qui font cette différence entre xénoglossie, qu'ils attribuent à la Pentecôte, et la glossolalie qu'il voit dans les autres passages dont nous avons parlé. Et je crois que parmi les charismatiques, il y en a un certain nombre qui ont ce sens à l'esprit. ils disent, voilà, à la Pentecôte, c'est un message que les auditeurs pouvaient comprendre, alors qu'à Corinthe, il dit des choses secrètes, des mystères, dans une langue que personne ne comprend, cela n'édifie pas, alors que cela a édifié le jour de la Pentecôte. Donc, vous voyez, ce n'est pas le même phénomène. Voilà l'argument principal des évangéliques, respectueux donc, du texte biblique, mais qui font cette différence entre glossolalie et xénoglossie. Certains adoptent une position juste un petit peu moyenne. Ils disent que ce ne sont pas des langues terrestres, mais c'est les langues des anges. Parce qu'au chapitre 13 de la première aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit « Si je parlais toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis que de l'airain qui résonne. » Donc, c'est la langue des anges que certains prétendent parler. Une motivation qui joue, je ne dis pas que ce soit le cas de tous ceux qui adoptent une telle façon de penser ou de voir, mais hein, une motivation qui joue, c'est que des gens compétents, des linguistes, en particulier un livre que j'ai lu de William Samarin, je le crois lui-même un évangélique, hein, mais un grand linguiste qui a étudié des centaines et des centaines de cassettes enregistrées de gens parlant en langue dans le mouvement pentecôtiste, et il s'est montré capable d'affirmer qu'il n'en a pas trouvé une seule où les caractères nécessaires d'une langue, il connaissait toute une masse de langues, ce Samarin connaissait toute une masse de langues terrestres d'aujourd'hui, et il dit une langue a des structures qu'on retrouve dans toutes les langues, des structures propres. Or, on ne les retrouve pas dans ces émissions. Mais on peut très bien retrouver les structures même de production de ces sons successifs, des structures assez rudimentaires, très simples, qui ne sont pas des structures proprement linguistiques. Alors la manière, pour ceux qui prennent au sérieux une telle analyse, la manière de réagir, peut-être pour sauver le caractère surnaturel de ce qu'ils croient être un don de l'esprit, c'est de dire, mais c'est la langue des anges. Donc les critères de la linguistique terrestre ne jouent pas, vous voyez. Donc certains parlent de cette façon. Alors je trouve que les arguments sont très faibles. Je ne vous impose pas la conclusion, mais je vous présente donc le débat. En ce qui concerne ces langues des anges, je trouve qu'on abuse de cette clause dans Corinthiens 13. C'est la seule fois où il mentionne une langue des anges. L'apôtre Paul ne dit pas qui que ce soit ait parlé une langue des anges. Il se place dans une situation de pure hypothèse. Si je parlais toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, c'est rien. Hein. C'est parallèle à d'autres clauses. Si j'avais la prophétie, je connaissais tous les mystères. Personne ne connaît tous les mystères. Si j'avais toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, rien. C'est une situation hypothétique. Alors, prétendre que les gens parlent couramment les langues des anges, à partir de cette seule référence, je trouve que c'est quand même pas très responsable. Voilà en ce qui concerne l'expression langue des anges. Deuxièmement, la différence qui est faite entre Pentecôte et Corinthe me semble aussi assez abusive, dans la mesure où les différences que l'on observe s'expliquent toutes très facilement par le fait qu'à Corinthe, c'était une situation exceptionnelle de rassemblement de gens de toute langue, pour la fête. C'était tous des juifs, mais de langues très très diverses, connaissant donc toute une panoplie, une palette très 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 étendue de langues. Alors que dans une ville comme Corinthe, normalement, dans l'auditoire, les gens ne connaissent pas 36 langues. Et donc, ces gens ne comprennent pas ce qu'ils disent, c'est tout. Et du coup, ça n'a pas le même effet, évidemment. Quand il y a quelqu'un pour connaître la langue qui la reconnaît, c'est un effet qui ne s'obtient pas si l'émission dans une langue étrangère n'est comprise par personne. Donc, il me semble que cette différence entre acte 2 et 1er Corinthien s'explique très facilement sans qu'on sépare glossolalie et xénoglossie. J'ajoute deux autres arguments à cette argumentation que je vous propose. La première chose que j'ajoute, c'est qu'il est question de ce phénomène en acte 2, mais aussi en acte 10 et aussi en acte 19. En acte 10 et en acte 19, il n'est pas du tout dit qu'il y avait des personnes pour dire à qui, pour reconnaître ce qui était dit, pour s'extasier à ce moment-là. Pas du tout. C'est simplement pour ça qu'il parlait en langue. Vous voyez, il s'exprimait en langue. Exactement les mêmes expressions qu'à Corinthe. Imaginez les Corinthiens lisant le livre des actes. Quand ils lisent acte 10 et acte 19, ils ne peuvent pas penser que c'est quelque chose d'autre que ce qu'ils connaissent couramment chez eux. Or, Pierre, en acte 10, dit « Le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement. » L'apôtre Pierre fait un parallèle précis avec acte 2. Donc, acte 10 et acte 19 peuvent très difficilement être interprétés d'un autre phénomène que celui d'acte 2. Et acte 10 et acte 19 peuvent aussi très difficilement s'interpréter d'un autre phénomène que celui de Corinthe. Oui. Donc, voyez, c'est un argument pour dire ne séparons pas entre le parler en langue d'acte 2 et les autres. La deuxième considération, c'est que si on scrute bien acte 1 Corinthiens 14, que je viens de vous lire, on trouve deux éléments dans la discussion sur le parler en langue de Corinthe qui me semblent montrer que Paul n'a en vue que des langues étrangères réellement existantes du monde. En effet, comme vous l'avez entendu, il souligne à un moment donné que toutes les langues qui sont sur la terre sont significatives. Verset 10. Si nombreux que soient les divers langages du monde, aucun n'est dépourvu de sens. Qu'est-ce qu'il fait en introduisant cette pensée? Il prévoit l'objection des Corinthiens, qui ne sont pas d'accord avec lui, hein, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est pour ça qu'il est obligé d'intervenir. Il leur dit, si c'est confus, comme une trompette qui vasouillerait, personne ne se préparera au combat. Si vous parlez en langue que personne ne comprend, alors ça n'a pas d'effet heureux. Mais ils vont répondre, mais ces langues, elles ont un sens. C'est pas des paroles dépourvues de sens. Voyez. Paul vient de faire l'objection au verset 9, si par la langue vous ne produisez pas une parole significative, vous parlez en langue. Et ils répondent, mais c'est une parole significative, car les langues que nous parlons, elles ont un sens. Toutes les langues du monde ont un sens. Oui. Et comment répond l'apôtre? Il ne répond pas en disant, ah oui, mais vous croyez que c'est l'accent aussi, mais c'est pas le Somali. Non, non. Il répond en disant, oui, d'accord, mais si je ne connais pas la langue, pour moi, c'est du barbarisme, je ne comprends pas, et ça n'a donc pas d'effet édifiant. Donc ça veut dire qu'il se place dans l'optique, les Corinthiens et l'apôtre ensemble, qu'il s'agit de véritables langues du monde. La référence au caractère significatif de toutes les langues du monde n'a de pertinence dans ce débat que si les langues sont bien des langues du monde. Ça c'est là. Premier élément que je trouve. Deuxième élément que je trouve, c'est la citation qu'il fait au verset 21. Il est écrit dans la loi. Dans la loi, c'est la loi au sens général de l'Ancien Testament. C'est en fait une citation d'Ésaïe 28. Dieu dit par des langues des gens d'une autre langue et des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Il ne s'agit pas du don des langues, là. Mais il s'agit d'une annonce de la dévastation par les Assyriens du royaume d'Israël. Ésaïe et les autres prophètes sont l'objet de moqueries, de railleries, ils sont toujours à nous ramâcher les mêmes trucs, ces prophètes, kaoula kao, tsaoula tsao, ils nous prennent pour des bébés de maternelle. Et la réponse, c'est que Dieu va leur parler par des langues qu'ils ne comprendront pas. En jugement, ce sont les Assyriens, les soldats assyriens, qui vont envahir leur pays. Ce sera la parole de châtiment de Dieu, voyez. Et c'est de ça que Paul dit ensuite, j'espère y revenir tout à l'heure un petit peu, que les langues ne sont pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. Mais l'apôtre Paul sait bien qu'il ne s'agit pas du don des langues, mais il tire de ce verset le principe que quand Dieu parle à des gens dans une langue qu'ils ne comprennent pas, c'est un signe de jugement. Et il en tire la conclusion, donc, n'employez pas le parler en langue. S'il y a des gens de l'extérieur qui viennent, ça va les refouler, ça va les, ils vont avoir une réaction négative, ils diront vous êtes fous. Donc, l'apôtre Paul utilise quelque chose que Dieu dit à propos d'une langue du monde, Esaïe 28, pour en tirer un principe qu'il applique à la glossolalie. Donc c'est bien la preuve que pour Paul, la glossolalie, c'est une émission de parole dans une langue du monde. Donc je conclus sur ce point précis que le phénomène biblique est un phénomène d'émission de parole dans une langue étrangère que celui qui parle ne connaît pas, qui peut être reconnu s'il y a quelqu'un qui connaît cette langue, mais ne correspond pas à ce simple simulacre de langage qu'on a dans le phénomène de la glossolalie répertorié ici ou là. C'est un vrai phénomène miraculeux d'émission de paroles dans une langue étrangère non connue par l'action de l'esprit. Alors, le problème se pose immédiatement, je ne nie pas, celui de l'authenticité biblique du phénomène, si ça m'avait la raison. Si vraiment tous les parlés en langue qu'il a étudiés en linguiste n'ont pas le caractère linguistique, si vraiment c'est prouvé, moi je suis prêt à dire, c'est pas le don biblique. Ce n'est pas ce dont parle le livre des Actes et l'apôtre Paul. Mais en même temps, j'ai au moins un témoignage. Samarine dit qu'il a suivi l'enquête, qu'il n'a pas trouvé un seul cas de véritable parler dans une langue étrangère. Et moi, j'ai un témoignage au moins, par écrit, hein, je l'ai eu, du pasteur Jean-Marc Taubois, qui m'a certifié qu'il a entendu un pasteur pentecôtiste, il y a déjà 30 ou 40 ans, émettre des paroles en hébreu, de louange à Dieu, alors que ce pasteur ne connaissait pas les mots. Et Jean-Marc Taubois était capable de le reconnaître parce qu'il avait passé du temps, il avait vécu au moins un an à Jérusalem. Donc, ça existe. Ça existe aussi aujourd'hui. Ça, c'est, je pense, le phénomène biblique. Alors, je ne suis pas en mesure de dire le pourcentage. Hein. Dans le point de cotisme, on peut être moins important, mais j'ai au moins un témoignage, contrairement à ce que Samarine et d'autres ont pu dire, qui me semble fiable pour l'émission dans une langue étrangère d'une parole réellement inspirée de Dieu. Il y a encore deux autres points qui concernent le quoi, la nature du phénomène. Oh là là, oh là là, voilà. On va commencer en retard. Hein. Comme vous l'avez remarqué, l'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Dieu. Personne ne le comprend, etc. Or, il est très très apparent dans le mouvement pentecôtiste d'aujourd'hui, dans toutes ces diverses variantes, que très souvent ce qui est dit en stop en langue, et que certains interprètent, c'est aussi dans l'interprétation qui apparaissent, sont plutôt des messages à l'assemblée, des paroles prophétiques, donc adressées aux humains. Alors, ça pose un petit problème. Est-ce que c'est une preuve d'inauthenticité ou pas? Moi, je suspends quelque peu le jugement. Je suis gêné par la chose. Si on me présente à parler en langue interprétée en me disant c'est une prophétie, c'est pas prévu dans les textes bibliques de manière explicite. En même temps, ce n'est pas non plus de manière très explicite exclu par la Bible. Je pense que la formule de Paul, il ne parle pas aux humains mais à Dieu, peut être une façon d'insister, de dire de manière générale. Au chapitre 2 des Actes, c'est des louanges à Dieu, donc c'est pas aussi à Dieu. Mais il me semble que je peux laisser à la liberté du Saint-Esprit, s'il le veut, de donner en langue un message qui sera ensuite interprété, traduit, hein, parce qu'une langue étrangère, interprété, être interprète, ça veut dire traduire, hein, qui sera ensuite traduite. Donc c'est une possibilité qu'avec un peu de gêne, mais pour ne pas être trop rigide, sachant que les manières de parler biblique sont parfois un peu souples, je ne voudrais pas totalement exclure. Mais je vous alerte quand même à ce propos. J'y conjoins, ce n'est pas mon deuxième point, mais c'est mon point subsidiaire ici, quand même aussi un petit avertissement sur l'interprétation. Certains disent... souvent les messages sont très courts et puis l'interprétation est trois, quatre fois plus longue, ou bien le contraire, c'est un peu suspect. C'est vrai que le mot interprétation, normalement, quand on parle de langue, puisque c'est une question de langue, c'est la traduction simplement. Le terme grec veut dire jouer le rôle d'interprète. Mais là encore, on peut admettre peut-être qu'il y a un développement que l'esprit... suscite ou un résumé. Bon, je trouve ça un petit peu gênant. Il ne faut pas non plus, lorsqu'il y a interprétation, que nous suspendions tout discernement. Il peut y avoir des interprétations prétendues qui n'en sont pas. Et là, j'ai lu un cas très, très précis dans une réunion donc, où il y avait certains parlaient en langue. Un fils de missionnaire qui avait été élevé dans une région où on parlait une langue rare, et qui la connaissait parce qu'elle avait été élevée là, a récité dans cette langue qu'il connaissait le Notre Père. Et quelqu'un qui s'est levé pour interpréter, et c'était absolument pas ça. Il était un peu sale sur la fin de temps, etc. Mais vous voyez, donc il ne faut pas non plus dire simplement parce qu'il y a interprétation, nous devons automatiquement croire que c'est bien ça. Hein, voilà. Il importe que nous soyons adultes quant au jugement. Deuxième grande question que j'aborde, toujours à propos du quoi, et y a-t-il des parler en langue démoniaque, des xénoglossies, hein, parler en langue étrangère réelle, démoniaque, plutôt que du Saint-Esprit? Peut-être dans le vaudou, peut-être dans ces. Dans ces formes religieuses, ou même dans des cercles chrétiens. Je pense qu'on peut dire oui, ça existe. J'ai un témoignage là aussi tout à fait fiable que j'ai entendu de la bouche de Gottfried Osei-Mensah, qui a été secrétaire général pour les GBU de toute l'Afrique anglophone, et qui a été ensuite secrétaire général du mouvement de Lausanne, le mouvement international. C'est comme ça que je l'ai connu dans les deux cas. Donc je le connais bien. Il avait aussi été plusieurs années pasteur d'une très belle église baptiste à Nairobi, donc un homme de Dieu vraiment très solide. Et il m'a raconté que dans un groupe, je crois que c'était un groupe GBU, un groupe biblique, je crois au Nigeria, une fille s'est mise à parler dans la langue d'une tribu qu'elle ne connaissait pas, elle, mais que lui a reconnu, ou quelqu'un d'autre dans le groupe, je ne sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre dans le groupe. Et c'était des blasphèmes horribles. Donc c'était une réelle xénoglossie, une émission surnaturelle dans une langue étrangère, mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Donc ça peut exister aussi. Je pense que c'est un phénomène rare, mais il n'y a pas pour nous à l'exclure totalement et d'emblée. Ces points déterminés quant à la nature du phénomène, je vais vous proposer la façon suivante de procéder. Je vais me contenter de vous dire en 3 minutes les grandes lignes des 2 autres chapitres de mon exposé et puis les laisser pour le développement la fois prochaine, à la fois prochaine. Et puis vous laisser le temps de poser quelques questions puisque il restera là, je pense, quand même quelques minutes pour cela, si vous voulez. Vous êtes d'accord que nous procédons de la manière suivante? Alors, le sens du parler en langue, je vais essayer de montrer qu'il n'est pas ce que souvent, ce n'est pas tous, hein, les pentecôtistes vont le dire, qu'il n'est pas le signe nécessaire ou au moins normal de la réception du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Mais le sens, je pense, est lié à la nouveauté de la nouvelle alliance. Et un argument que je vais employer, mais je le développerai donc, Dieu voulant la fois prochaine, l'argument c'est que, avec le don d'interprétation qui va avec, c'est le seul don du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus n'est pas exercé. Vous prenez tout le don du Saint-Esprit, Jésus les a eu. Il avait l'esprit en plénitude, mais il ne dit nulle part qu'il ait parlé en langue. Ni. Pourquoi? Bien parce que le ministère de Jésus est un ministère qui a eu lieu avant la Pentecôte, avant l'ouverture de la Nouvelle Alliance. Donc, j'essaierai d'aller dans ce sens pour interpréter le sens du parler en langue. Quant au comment, j'essaierai de respecter, en tout cas je vous inviterai à essayer de le faire, vous aussi, le dosage de la première épître aux Corinthiens chapitre 14. Il me semble que tout se résume très bien, tout à la fin. N'empêchez pas de parler en langue, recherchez la prophétie. Il me semble que pour Paul, le parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit, il ne s'agit pas de le rejeter, de le refuser. Alors il donne des conditions d'exercice selon l'ordre qui plaît à Dieu, mais il n'encourage pas spécialement à le chercher. N'empêchez pas, mais recherchez la prophétie. Donc il y a là un dosage, l'équilibre tel que l'apôtre le définit, et je crois que ça correspond à tout le chapitre. Alors il s'agira de voir très concrètement ce que cela signifie, voir comment l'apôtre présente ces choses, et je voudrais donc, nous voulons la fois prochaine, poser la question, est-ce que nous devrions admettre du parler en langue dans nos cultes, au tabernacle? Vous voyez, ma conclusion sera plutôt négative à ce sujet, mais il faut l'argumenter. N'empêchez pas, donc il faudra que nous en reparlions, que nous prenions le temps d'examiner ces choses. Voilà ce que je crois nous pouvons laisser au mois prochain, si c'est bien comme cela que les choses se déterminent. Et alors donc, dans les 5 minutes qui nous restent, si vous voulez intervenir, alors, non pas sur ces 2 points que nous reprendrons la fois prochaine, mais sur ce qui a été dit aujourd'hui, alors je vous invite de le faire, je vois.